Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, nous évoquons les langues universelles. Les enfants des écoles vont retrouver enfin le béaba du français et se pencher dans la foulée sur l'anglais. Les hommes ont toujours cherché des moyens plus simples pour communiquer entre eux. Ah, si une langue universelle existait! Mais Babel est passé par là. Apprendre une langue prend du temps, en créer une nouvelle aussi. Ce rêve relève de deux volontés, le secret ou l'universalité. Le latin peut passer encore pour être une langue universelle, au moins au Vatican et dans quelques corridors de la Sorbonne. Mais cette langue morte met du temps à mourir, heureusement. Car dès le XVIIe siècle, plusieurs philosophes, ne croyant plus à ses vertus, le mirent en doute et recherchèrent une langue universelle propre à exprimer le vrai, comme on disait. Parmi ceux-ci, l'humaniste morave, Comenius, de son vrai nom Jean Amos Komenski, 1592-1670, fut l'un des premiers à déplorer que l'étude scolaire du latin occupe 10 années ou même toute une vie avec un avancement fort petit. Il a donc exposé dans son ouvrage intitulé « Janua linguarum reserata », imprimé à Amsterdam en 1649, sa méthode pratique. Celle-là reposait sur un système éducatif complet, de l'âge de 4 à 24 ans, fondé sur le pouvoir visuel et l'utilisation des images. Son principe, institué dans l'Orbis Pictus, consistait à associer l'image au mot. Dans son livre, le texte imprimé sur 2 colonnes présente des petites phrases en français et hollandais. Et afin de faciliter la compréhension et distraire l'élève, chaque phrase est numérotée et illustrée par une ou plusieurs petites figures. Plus tard, Comenius songea à une langue encore plus simplifiée. Nous la trouvons dans la traduction française de son second ouvrage, « La porte des langues », introduction nouvelle à la française et à la flamande, disposée en colonnes et expliquée par plusieurs figures, également imprimée à Amsterdam en 1686. Nous en connaissons un exemplaire qui a été entièrement interfolié pour permettre à l'élève ou au maître de porter sur les feuillets blancs la traduction latine. Ce qui a été fait pour plus du tiers de l'ouvrage, on peut se demander lequel des deux s'est lassé le plus vite, du professeur ou de l'élève, avant de revenir au français. Descartes, lui aussi, songeait à une langue universelle. Comme son condisciple à la flèche, le père Martin Mersenne, 1588-1648. Est-ce à partir de son harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique, publiée en 1636, qu'il chercha une langue à fondement naturel, sans convention, que l'on comprenne sans l'avoir apprise? Une base serait l'onomatopée, qui associe certains sons à certains sentiments et idées. Et en Angleterre, Francis Godwin, 1562-1633, évêque de Llandaff, composa de nombreux ouvrages dont « The Man in the Moon » en 1638. C'est un curieux roman astronomique traduit en français par Baudouin en 1648, et celui-ci paraît avoir séduit Savinien de Cyrano de Bergerac, qui s'en inspira pour parler la langue de la nature, qui, comme on le sait, est la langue matrice parfaite parlée par le premier homme, exprimant le vrai et permettant de communiquer avec les animaux. Pour en savoir plus, il suffit de se reporter à son histoire comique des États et Empire du Soleil, dont la première édition parut en 1656. Plus tard, Leibniz, 1646-1716, participa à cette recherche dans sa dissertation De Arte Combinatura. Il dresse un projet de langue universelle fondé sur une classification des concepts. Il appuie son raisonnement en les critiquant sur les méthodes imaginées par l'Écossais d'Alagarno et par John Wilkins. Celui-ci, qui vécut de 1614 à 1672, était évêque de Chester et il fut l'auteur d'un essai Toward the Royal Character on a Philosophical Language à Londres en 1668. Il divisa ses idées en 40 classes, elles-mêmes subdivisées en sous-classes et espèces. À chaque division, correspond à un signe caractéristique d'où l'on tirait, par addition ou combinaison, les dérives complexes. Le XVIIIe siècle ne demeura pas en reste. Les philosophes du siècle des Lumières développèrent les recherches des étymologies sur les racines primitives universelles données à l'homme par la nature, explique Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut, qui conserve la plupart des ouvrages que nous évoquons aujourd'hui. Et vers la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, on composait des passillaliès, sorte de convention d'où visuelle qui utilisait des lettres et parfois des signes affectés d'un son, de matière que les combinaisons forment des ensembles prononçables. Vous comprenez ? Joseph de Mamieux employait pour la première fois un autre mot pour désigner ces conventions dans son ouvrage « Passigraphié », ou « Premiers éléments du nouvel art-science, d'écrire et d'imprimer en une langue de manière à être lu et entendu dans toute autre langue, sans traduction ». Et cet ouvrage capital a été publié au bureau de la passigraphie en 1797. Il y en a deux parties en un volume. Convient-il alors de ranger parmi les langues universelles la dactylologie ? Il s'agit de la méthode mise au point par Charles Michel, abbé de l'Épée, 1712-1789, qui permit enfin aux sourds et aux muets de communiquer. Son ouvrage « Institution des sourds et muets par voie des signes méthodiques », ouvrage qui contient le projet d'une langue universelle par l'entremise des signes naturels assujettis à une méthode, publié à Nyon en 1776, est sans doute le seul parmi tous ceux qui ont essayé d'imposer une langue universelle qui a véritablement servi l'humanité. Le roi Louis XVI en possède un exemplaire dans sa bibliothèque. Au XIXe siècle, on vit l'apparition pléthorique de méthodes de langue universelle. Entre Volapük, l'espéranto et le sébillan, le bolac et le stipone, et même le spokin, nous ne savons plus dans quel sens tourner notre langue. Le seul qui y parvint fut le capitaine Haddock, le héros de Hergé qui les utilisa comme jurons. Nous y reviendrons.